Vous écoutez
RMC.
Vous êtes bien sur RMC dans Apolline Matin, il est 8h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet, bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Une partie de l'ouest de la France se réveille sous la neige ce matin. C'est complètement inhabituel, il est tombé une trentaine de centimètres par endroit dans ces départements, provoquant accidents et quasiment 800 km de bouchons partout en France ce matin. La coordination rurale confirme son intention de manifester jeudi à Paris, mais vous verrez que des arrêtés sont pris pour empêcher leurs tracteurs d'accéder à la capitale. Et vous allez entendre dans ce journal le témoignage RMC de la cousine de la plus jeune victime française du drame de Crans-Montana en Suisse.
Il est tombé jusqu'à 35 cm de neige cette nuit en Charente-Maritime.
Oui, et ça donne des images complètement insolites dans ce département qui n'est pas du tout habitué à ça. Le vieux port de La Rochelle est tout blanc ce matin. Même les plages sont recouvertes de neige. Et on se croirait à la montagne, carrément dans les terres où il a neigé le plus fort, comme à Surgères, comme nous le confirme Cécile. Écoutez la boulangère.
Ah bah c'est beau hein, je me croyais en vacances là, je dis ah bah je me crois au pays de la neige. Là c'est vraiment, j'ai eu du mal à marcher d'ailleurs pour aller au travail, les arbres sont blancs, les maisons, les voitures, tout est blanc en fait. J'ai eu deux clients parce que du coup il n'y a pas grand monde, ils m'ont dit oui c'est magique, ils m'ont dit tout le monde va faire des bonhommes de neige et puis on voit des sourires et là je suis sûre que les enfants ils vont s'éclater aujourd'hui. C'est rare parce que mes parents eux, ils sont d'ici et ils m'ont dit bah il neige jamais, puis bah la finale cette année c'est magique.
Alors c'est beau à voir, mais ça tourne à la galère hein, quand même sur la route. Martin Lange, on vous retrouve plus au nord, à La Roche-sur-Yon, en Vendée, où il a neigé une vingtaine de centimètres cette nuit. Vous êtes le correspondant d'RMC dans la région et vous nous dites que la circulation pose problème ce matin dans ce département.
Oui Quentin, avec déjà des dégâts, hein, le préfet vient de l'annoncer sur RMC. 11 accidents matériels, une quinzaine de véhicules bloqués et même une route coupée à cause d'un camion renversé. Ce matin, la couche de neige est encore bien présente, hein, une dizaine de centimètres. La photo froid, il fait moins 3 degrés avec un risque de verglas très important. La préfecture déconseille d'ailleurs hein, de prendre sa voiture, mais certains n'ont pas le choix. C'est le cas de Patricia, elle tient un commerce dans le centre-ville, mais elle habite au Sable d'Olonne à une trentaine de kilomètres.
Lorsqu'à 4h du matin, j'ai vu que c'était bien enneigé sur les Sables d'Olonne, je me suis dit, je me lève avec 3/4 d'heure d'avance et je prends ma voiture. Donc la route à 50 à l'heure, pas salée. Je ne me souviens pas avoir eu un matin dans ce cas de figure où effectivement on ne pouvait pas venir ou difficilement quoi.
Voilà, c'était Martin Lange en direct de Vendée pour RMC, département de l'Ouest, qui lui aussi se réveille sous la neige ce matin. Il y a quasiment 800 km de bouchons partout en France, selon Bison Futé, mais quasiment aucun, et c'est à noter, en région parisienne. On est au lendemain de l'immense pagaille en Ile-de-France. Et ben, au moment où on se parle, il n'y a même pas 40 km de bouchons, alors que normalement, à ce temps-là, c'est 300. Pour ceux qui se reportent sur les transports en commun, il y a quelques perturbations sur le RER, mais c'est surtout le trafic des bus qui est compliqué ce matin. Au mieux un quart des bus en petite couronne, donc en région parisienne, il n'y en a aucun en grande couronne. Il y a des rames de métro, de tramway qui ont circulé toute la nuit pour éviter le gel. Et c'est à noter, le site de la RATP plante ce matin à cause de la fréquentation. Tout le monde cherche à avoir des infos. Ce matin, il n'y a pas de transport scolaire dans de nombreux départements. C'est le cas encore de la Bretagne et de la Normandie notamment. Alors non seulement il n'y a pas de transport scolaire, mais en plus de ça, bah, il n'y avait pas de chauffage hier dans de nombreux établissements scolaires. C'était la rentrée et des dizaines d'établissements partout en France n'ont pas réussi à redémarrer les chaudières, Louis Salé.
Au lycée Jean Monnet de Montpellier, près de 1400 élèves ont été priés de rentrer chez eux. Hier, il faisait 12 degrés dans la classe des enfants de Marie, représentante des parents d'élèves de l'établissement.
On est en droit d'attendre quelque chose de mieux conçu pour nos enfants. Mais moi, ce qui est vraiment le plus problématique du point de vue des élèves et des parents d'élèves, voilà, c'était sur ceux qui voulaient rentrer chez eux et qui habitaient loin.
Dans cette académie, 5 établissements scolaires ont rencontré des problèmes de chauffage. Hier, Magdalena Solabarrieta est proviseur dans le même département, l'Hérault, où elle est secrétaire du syndicat des personnels de direction et pointe des soucis de vétusté.
Vous revenez de vos congés et puis vous avez relancé votre chaudière, elle ne veut pas se relancer. Alors sur un système neuf, ça peut vous arriver aussi, mais bien entendu, plus votre véhicule est ancien, plus il va avoir de panne. C'est la même chose avec une chaudière.
Ces dysfonctionnements sont observés ailleurs en France. Dans le Loiret, 7 collèges et lycées ont renvoyé près de 6000 élèves en raison d'une température trop basse. Des milliers de collégiens ont également été privés de cours dans la Loire et la Sarthe. La plupart de ces établissements sont normalement en mesure d'accueillir les élèves aujourd'hui.
L'information politique de la matinée nous vient de Toulon où la députée RN Laure Lavalette annonce dans une lettre sa candidature aux élections municipales du mois de mars, ville longtemps dirigée par Hubert Falco, empêchée de se représenter par la justice après une affaire de détournement de fonds.
8h05 sur RMC, les agriculteurs seront encore reçus aujourd'hui à Matignon.
Oui, ceux de la coordination rurale l'étaient hier et ils en sont ressortis mécontents de leur rendez-vous avec le Premier ministre. Le syndicat maintient son appel à manifester jeudi à Paris et alors en réponse, des arrêtés préfectoraux sont pris pour empêcher leurs tracteurs de se rendre dans la capitale. Certains sont pourtant déjà sur la route. C'est le cas de Thomas Egarty, de la coordination rurale en Haute-Vienne. Il fait partie d'un convoi d'une trentaine de tracteurs.
On est là et puis maintenant l'objectif c'est Paris quoi. Arrêter ou pas arrêter, tenez à manifester, c'est notre droit. Donc moi j'ai pas fait 12 ou 13 heures de tracteur pour faire demi-tour. Si on va pas à Paris, demain on est mort. Faut se faire entendre, faut faire pression, pour faire plier le gouvernement qui nous écoute et qui met en place ce qu'on demande quoi. Pour nous sauver, pour sauver l'élevage, sauver nos fermes quoi. Notre président a vu le ministre, ça n'a rien donné quoi. Ils vont céder sur aucun point donc nous on continue quoi. On est tous à bout. Hein.
Le parquet de Paris ouvre une enquête après le drame dans un bar de Crans-Montana, le drame de la nuit du Nouvel An en Suisse. 9 Français sont morts, 23 autres font partie des blessés dans cette tragédie. La plus jeune victime française avait seulement 14 ans, le jeune Noah. Eh bien, sa cousine a accepté de s'exprimer et de témoigner. Écoutez au micro RMC de Pierre Bourgès.
À l'immense tristesse se mêle presque une sorte de soulagement pour Mélissia, celui d'avoir pu identifier le corps de son cousin après plusieurs jours d'incertitude.
Depuis l'identification, on est tous fatigués. On a passé ces 4 jours à appeler sans arrêt partout, à regarder toutes les vidéos qui circulaient, voir si on le voyait sur les vidéos. Non, ça a été une attente abominable, abominable. Abominable.
À cela s'ajoute désormais une question. Comment un tel drame a pu se produire? Mélissia ne comprend pas.
On a tous été très, très en colère contre ce bar qui n'a pas, pour moi, respecté les normes, qui n'a pas su protéger les jeunes filles qui étaient dedans.
Selon elle, Noah connaissait bien ce bar où il allait de temps en temps malgré son jeune âge. Après le décès de sa maman il y a 4 ans, il était parti vivre en Suisse avec son père.
Noah, c'était un garçon très sportif qui était fan de foot. Très joyeux, malgré la vie qu'il a. C'était un garçon sage, qui faisait pas de bêtises, très aimant. C'était un bon petit garçon.
Ses anciens clubs de foot ont tenu à lui rendre hommage sur les réseaux sociaux hier.
Il sera question de la guerre en Ukraine aujourd'hui à Paris.
Oui, avec une réunion de la coalition des alliés en présence. Alors ça, c'est une première des deux émissaires de Donald Trump qui négocient avec les Russes et les Ukrainiens, Cyprien Pezeril.
Oui, une reconvergence avec les Américains dans la défense de l'Ukraine, se félicite l'Élysée, et qui s'illustre donc par la présence pour la première fois des émissaires de Donald Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner. Nous nous sommes occupés de ramener les Américains au plus près de nous, se réjouit un conseiller d'Emmanuel Macron, alors que cette coalition des volontaires a vu le jour au lendemain de l'humiliation de Volodymyr Zelensky à la Maison Blanche. Une petite victoire pour la France donc, mais fragile. Est-ce de nature à expliquer le silence d'Emmanuel Macron après l'intervention américaine au Venezuela? On est dans un moment de négociation sur l'Ukraine. Ne pas s'aliéner les Américains, c'était un enjeu, reconnaît une ministre qui comprend que le chef de l'État n'a pas voulu froisser Donald Trump. Ça n'a rien à voir, jure l'Élysée, en évacuant toute accusation de complaisance.
Et puis à la Coupe d'Afrique des Nations, GUV sur RMC Radio officielle, fin des huitièmes. Aujourd'hui, Algérie-Congo sera 17h, Côte d'Ivoire-Burkina Faso un peu plus tard à 20h, au lendemain des qualifications du Nigeria et de l'Égypte. Le tableau final se dessine.
C'était le journal de Quentin Vinet, 8h08, c'est l'heure de parler économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Bonjour Emmanuel, le chiffre.
Bonjour à tous.
Le gouvernement veut inciter les Français à consommer en facilitant le déblocage de leur épargne salariale.
C'est une proposition à laquelle tient Serge Papin depuis qu'il a été nommé, entre autres, ministre du pouvoir d'achat mi-octobre. Permettre aux salariés de débloquer 2000 euros de leur plan d'épargne entreprise sans se faire assommer fiscalement pour consommer. Alors, il l'avait déjà formulé, mais hier, s'est tenu à Bercy une réunion entre le ministre et les syndicats de patrons. La mesure passerait par décret pour être mise en place plus rapidement. Elle concernerait les salariés qui gagnent jusqu'à 2 SMIC, et donc ça concernerait 3 millions d'entre eux sur les 11 millions qui bénéficient de ces dispositifs pour un montant d'à peu près 4 milliards d'euros.
Est-ce que ce sera vraiment intéressant?
Plutôt, parce que il faut rappeler comment ça se passe aujourd'hui pour utiliser son épargne salariale. Quand vous la recevez, première possibilité, vous en avez besoin, vous la mettez sur votre compte en banque et là, vous êtes assujetti à la CSG, la CRDS et évidemment à l'impôt sur le revenu. 30% à peu près de taux marginal hein, pour les gens qui gagnent à peu près deux SMIC. Donc en gros, on vous prend 40% de votre prime. Soit vous décidez d'épargner, et là, pour éviter le coup de massue fiscale, vous êtes obligé d'attendre 5 ans, sauf si vous bénéficiez d'un cas de déblocage anticipé, mariage, naissance, achat de résidence principale, mais vous ne pouvez pas débloquer avant 5 ans. Donc là, la proposition de Serge Papin, ça ouvre finalement un nouveau cas de déblocage anticipé temporaire.
Est-ce que cette mesure est de nature à doper la consommation ?
Alors, ça peut donner un petit coup de fouet temporaire, hein, un gain immédiat pour les salariés de la classe moyenne qui épargne peu. L'avantage, c'est que ça ne coûte rien à l'État, ça ne coûte rien aux entreprises, donc c'est pas mauvais pour le déficit public, c'est pas mauvais pour la compétitivité des entreprises, ça augmente pas le coût du travail, par exemple. Alors après, 4 milliards d'euros, hein, on va le rappeler, on va se calmer, c'est une journée de consommation. C'est l'équivalent d'une journée de consommation, et puis c'est vrai qu'on est dans un pays où beaucoup préfèrent de toute façon épargner, et comme disent les économistes, vous ne faites pas boire un âne qui n'a pas soif, vous ne faites pas dépenser des ménages qui veulent épargner. Le problème de cette mesure, la critique qu'on peut lui faire, c'est qu'elle est peut-être un peu injuste, parce que il y a que 20% des salariés des PME qui bénéficient de cette épargne salariale, contre 70% des salariés des grands groupes qui sont déjà plutôt les mieux lotus. Donc c'est une mesure qui soulage un peu ceux qui ont déjà une épargne, mais qui ne fait rien pour ceux qui manquent d'argent.
Et on ne peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif. Chaque jour,
non. Il
y a une petite morale quand
absolument.
Même dans les chroniques éco d'Emmanuel Le Chypre. Merci Emmanuel. On se retrouve dans un instant avec Arnaud Demange qui nous rejoint à 8h30. L'invité du face-à-face, ce sera la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot. Et puis juste après, comme chaque matin, à 8h50, vous avez rendez-vous avec Nicolas Canteloup, face à Canteloup, comme tous les matins. A tout de suite, 8h11 sur RMC.
Comment ? RMC, Apolline Matin. C'est tous les jours de manche.
Arnaud Demange qui nous rejoint à 8h15. Bonjour Arnaud.
Mais oui, bonjour. Bonjour. Tout le monde va bien ?
Bah oui.
Pas de jambes
oui.
cassées ?
Non.
Pas de genoux en vrac ? Non. Pas d'entorse à la cheville à cause de la neige ? Mmh. Parce encore. Que ce matin, dans Paris, c'est ambiance... Régime, vous avez vu, ils ont une bouteille d'alcool avec un crapaud dedans.
Non.
Rien à voir avec le froid, hein, c'est juste des intermittents, hein, c'est pour ça.
Oh.
Ils boivent tôt. Bref, la France est paralysée par la neige et il fait froid. La neige, c'est joli, mais on aurait le même paysage à 30 degrés. Franchement, ce serait pas mal. Hein. Là, ça caille. En plus, Véronique Courgeot a pu faire une balade en famille sans que personne ne décongèle.
Oh.
Le loup d'Intermarché vient de bouffer deux végétariens pour avoir des protéines. Il ne pouvait pas tenir hein, les légumes, ça va bien 5 minutes. Tout le monde dérapait hier, on se serait cru sur un plateau de CNews géant. Vous savez, le problème avec les LGBT, ce sont les P2. Ça dérape. Ça glisse. Du coup, ça... Demain, on va faire demain. Du coup, ça roule mal à Paris. Pour une fois, c'est pas de la faute d'Anne Hidalgo. Hein. C'est de la faute de Géraldine de Mauri.
Bravo,
Très bien. En plus, c'est raccord avec l'actualité, tout ça, parce qu'en ce moment, Trump veut prendre le Venezuela, le Groenland, Poutine veut prendre l'Ukraine, Xi veut Taïwan. Et Macron, il essaye d'exister au milieu de tout ça. Sa doctrine diplomatique du moment, c'est...
Oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. Sur un malentendu, ça peut marcher.
On est sur une thématique.
Alors à propos de neige, Donald Trump a réaffirmé « Nous avons besoin du Groenland ». Voilà, moi j'ai besoin de 20 000 euros pour changer ma voiture, je vais pas braquer un concessionnaire, ça ne peut pas marcher comme ça. Trump, c'est un gamin dans un supermarché en fait, il se roule par terre en disant
« Je veux des Esquimaux !»
C'est un gamin, il hurle, il sait pas lire, il porte des couches, c'est un gamin. On est tous interloqués par ça, mais en vrai, c'est culturel, voilà, les Américains qui attaquent un pays pour voler leurs ressources naturelles, c'est une tradition, c'est un truc à eux, c'est comme Halloween, le baseball, la country. On peut pas comprendre si on n'est pas né là-bas. Alors comment Trump va nous faire croire que le Groenland est un narco-État dictatorial cette fois? Il va dire quoi? Je sais pas. J'ai vu des photos de la poudreuse partout.
Voilà.
Les narco-trafiquants sont des pingouins. Oh, bad penguins. Very bad penguins. I don't like them. No, I don't like them.
Il le tient. Hein.
Shut up, you bad penguins. No, coin, coin. No, coin, coin, bad penguins. No. Bon, délire. Donald Trump va enlever la chef de l'État du Groenland, la Reine des Neiges, et dans tout le pays, il y aura des manifestations pour la...
Libérée. Eh oui.
On reste dans le thème.
Sébastien Lecornu a mis un terme aux avantages des anciens premiers ministres et des anciens ministres de l'Intérieur. Plus de chauffeurs, plus d'officiers de sécurité depuis la semaine dernière.
Ouais, et il y en a un qui est pas content. Vous avez vu ? Daniel Vaillant, ancien ministre socialiste de l'Intérieur sous Jospin, il était furieux de perdre son chauffeur. Il a déclaré « Comment je vais faire pour me déplacer ?» Et ben marche, je ne sais pas. Marche, c'est pas dur. En fait, tu envoies une jambe vers l'avant, tu compenses le déséquilibre avec l'autre jambe, ouais, et ainsi de suite. Essayez chez vous, ça fonctionne, sauf si vous êtes myopathe, bien évidemment, sûr. Mais sinon ça marche. Ceci dit, Daniel Vaillant dit qu'il a pas conduit depuis plus de 30 ans. Est-ce que ce serait pas plus rassurant qu'on lui laisse le chauffeur en plus ? Ou alors, pour faire des économies, je propose, on utilise comme chauffeur des gens condamnés à des travaux d'intérêt général. Bonjour Monsieur Vaillant, je suis Pierre Palmade, votre nouveau chauffeur. Donc c'est bon, je vais conduire moi-même. Il est où le volant ? Pardon mon colonel, vous êtes sur la banquette arrière. Bon allez, en route. Ah merde, deux fois. Daniel Vaillant perd aussi son policier garde du corps. Dites donc, officier de sécurité de Daniel Vaillant, super boulot, hein. Tu rêves d'être flic de choc, de faire des films d'action et tu finis auxiliaire de vie d'un vieux socialiste. À quoi ça sert un garde du corps pour Daniel Vaillant ? Qui va attenter à la vie de Daniel Vaillant, hein, qui le reconnaît ? Par le beurre de micelle et la mayonnaise, qui peut lui faire du mal ? Non mais ses ennemis à lui, c'est Monique Ranou, Pierre Martinet et William Sorin. Alors vous avez vu que Dominique de Villepin aussi est privé de chauffeur et de garde du corps payé par le gouvernement français, ce qui fait qu'il ne reste plus que son chauffeur et son garde du corps payé par le gouvernement qatari. Et les 24 policiers ainsi libérés seront affectés à la lutte contre le narcotrafic. Donc tu passes de garde du corps de Daniel Vaillant à combattre la DZ Mafia. La transition est rude, hein. Quelles ont été vos dernières missions ?
Moi, j'ai emmené Daniel Vaillant chez Damar. Après, on regardait l'heure des pros sur CNews, dans son canapé, en râlant sur les Arabes.
Mais il est socialiste.
Oui, mais il est vieux. C'était horrible, Pauline. Quand je repense à l'odeur, Pauline, l'odeur de Daniel Vaillant, l'odeur du napalm à côté, c'était le Sephora des champs. J'ai mal.
Allez, courage, Rambo. Allez, à demain.
Bravo.
Bisous.
Merci. Bravo. Il est 8h20, c'était notre Arnaud de Manche National, qu'on retrouve non seulement tous les matins sur RMC, mais à tout moment en podcast et même en tournée partout en France avec un nouveau spectacle. Montpellier, Caen, hier, Versailles, Poitiers ou Épinal, un spectacle RMC. 8h20, Jérôme nous appelle du Morbihan. Bonjour Jérôme.
Bonjour Apolline, bonjour à tous.
Jérôme, vous êtes dans la voiture. Comment ça se passe sur les routes du Morbihan ?
Alors, écoutez, je viens de sortir de la Nationale 165 qui relie Vannes à Nantes, on va dire, excusez-moi du terme, dégueulasse.
Ah.
Et je suis sur une petite route qui me paraît plus dégagée puisqu'il y avait un village aux abords, donc je pense qu'il y a un petit peu de ça. Mais ce qui est hallucinant, c'est les gens qui vous doublent alors qu'il n'y a qu'une seule voie de circulation, on va dire, qui est jouable, et les gens vous doublent comme si de rien n'était. Après, on s'étonne qu'il y a des accidents, mais voilà.
Il oui, y a des gens qui prennent des risques.
Oui, prennent des risques, j'en sais rien. Ils imaginent qu'ils ont une grosse bagnole, qu'ils ont des gros véhicules avec tout ce qu'il faut en sécurité, mais voilà, ils se rendent pas compte à quel point ils prennent des risques pour eux comme pour les autres, hein, d'ailleurs.
Ouais. Bon, vous vous en êtes sorti sans encombre, Jérôme. C'est où la destination ?
Non, je suis pas encore arrivé. Je vais à Saint-Nazaire.
C'est ce que j'allais vous dire. Vous allez où ?
Voilà. Je vais à Saint-Nazaire. Je suis parti depuis 1h30, donc voilà.
Ok, quel temps vous allez trouver à Saint-Nazaire, Géraldine ?
À Saint-Nazaire, il y a quand même encore une couche de neige, hein, donc il faudra rester extrêmement vigilant, mais ensuite vous aurez du soleil.
Vous faites quoi dans la vie, Jérôme ?
Je suis commercial dans le vitrage automobile.
Commercial dans le vitrage automobile, d'accord.
Bien, boulot. Ouais, peut-être des nouveaux clients.
Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, vous en allez avoir des clients. Merci Jérôme, en tout cas, d'être passé par le 32-16. Il est 8h22, dans un instant, je file RMC plus BFM TV avec mon invité Mathilde Panot, la chef des députés LFI à l'Assemblée. On va parler de Maduro. Tiens, est-ce qu'elle demande toujours son retour immédiat à la tête du Venezuela ? Je lui pose la question dans un instant. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29, vous êtes bien sûr RMC et BFM TV. Bonjour Mathilde Panot.
Bonjour.
Bonne année, vous êtes présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale. De très nombreuses questions à vous poser ce matin, à la fois sur la situation internationale, évidemment l'arrestation de Nicolas Maduro, l'Ukraine, mais aussi le budget. Un point d'abord, parce que vous êtes vous-même élu du Val-de-Marne, vous êtes arrivé en voiture, ça allait ?
Oui, ça allait. J'invite toutes celles et ceux qui nous écoutent à être extrêmement prudents. Et je voudrais surtout avoir une pensée pour celles et ceux qui, aujourd'hui encore, dorment à la rue. Il y a eu la nuit de Noël, Morgan, 35 ans, un homme qui est mort de froid à Reims. Il y a eu le 30 décembre, Fernand, 72 ans, qui est mort à Paris. Et malheureusement, la liste est longue puisque nous avons au moins 7 personnes qui sont décédées du froid ces deux dernières semaines. Et le collectif des morts à la rue parle de 912 personnes qui sont mortes de la rue, de l'inaction de ce gouvernement.
En 2025 ?
En 2024, c'est les chiffres de 2024. Les chiffres de 2025 viendront un peu après. C'est un record, malheureusement. La plus âgée d'entre elles avait 93 ans. Les plus jeunes d'entre eux avaient quelques jours. Et c'est une indignité absolue que dans la France, 7e puissance mondiale, il y ait encore des gens qui soient condamnés à mort en vivant à la rue de cette manière. Et donc, j'appelle à faire respecter, à la fois à faire ouvrir les bâtiments publics et à faire respecter la loi de réquisition qui date de 1946 et qui a été utilisée la dernière fois en 1999. À l'époque, il y avait 1000 bâtiments qui avaient été réquisitionnés. Je rappelle que la réquisition, contrairement aux cris
des bâtiments publics, des bâtiments privés,
ce sont des bâtiments privés. À l'époque, c'était des bâtiments des assurances et des bâtiments de compagnies financières. Il y avait donc 1000 bâtiments, que c'est des réquisitions qui sont temporaire avec indemnisation du propriétaire et qu'il y a 3 millions de logements vacants dans ce pays. Donc, il faut mettre d'urgence tout le monde à l'abri et faire en sorte que tout le monde ait un toit.
Application donc de la loi de réquisition immédiate.
Oui, demandez-vous. Et vraiment, je fais un appel solennel aujourd'hui parce que des vies en dépendent et nous voyons que nous avons des températures négatives un peu partout dans le pays, que nous avons une vague de froid qui malheureusement va se continuer et que face à l'explosion du sans-abrisme, notamment des enfants, il y a une responsabilité de ce gouvernement et de l'ensemble des pouvoirs publics de mettre tout le monde à l'abri.
Coupable de ces condamnations.
Oui, moi j'ai honte de voir que là encore, dans un pays aussi riche que le nôtre, nous avons un président de la République qui, je le rappelle, est arrivé en 2017 en disant « Dans un an, plus personne ne dormira à la rue ». Eh bien, nous avons une explosion du sans-abrisme jamais vue depuis 70 ans dans ce pays. Donc maintenant, ça suffit. Il existe une loi qui s'appelle la loi de réquisition, qui permet de réquisitionner temporairement. Vous savez, sur les 3 millions de logements, pour être très précise, il y en a 1,2 million qui sont vides depuis plus de 2 ans. Donc, il n'y a aucun problème à aller réquisitionner ces logements et à faire en sorte que les personnes qui sont aujourd'hui à la rue puissent juste survivre. Je rappelle, évidemment, on parle de l'hiver et on en parle lors de la vague de froid, mais il y a malheureusement autant de gens qui meurent aussi lors des vagues de canicule.
Mathilde Panot, Nicolas Maduro a été présenté à la justice américaine hier. Je suis toujours le président de mon pays, voilà ce qu'il a déclaré. Il reste en prison à New York jusqu'à sa prochaine audience le 17 mars. Vous avez écrit à Sébastien Lecornu pour demander un débat parlementaire sur le Venezuela. À quoi bon ?
À quoi bon ? Eh bien, à beaucoup de choses. D'abord parce que le président de la République ne peut pas décider seul de la politique étrangère de la France. Et je crois que l'Assemblée nationale a des choses à dire et une voix de la France à réaffirmer. D'autant plus fortement que la voix de la France a fortement manqué vis-à-vis de la tradition que nous avons sur cette question, puisque le président de la République a non seulement été incapable de condamner des violations du droit international extrêmement graves, mais il a même été incapable de nommer Donald Trump et les États-Unis comme étant les agresseurs. Nous sommes face à une situation qui est extrêmement préoccupante. Il y a dans ce qu'a fait les États-Unis des violations, 3 violations de la Charte des Nations Unies. La première, c'est d'agresser militairement un pays sans avoir l'accord du Conseil de sécurité de l'ONU. La deuxième, c'est d'avoir kidnappé un chef d'État en exercice et sa femme pour l'emmener aux États-Unis. Et cela s'appelle un enlèvement et non une capture, comme on le dit régulièrement, malheureusement, en utilisant les mots de l'administration Trumpen. Et la troisième, c'est de bombarder des civils, et je le dis puisque j'ai entendu sur certains médias qu'il y avait 0 mort dans cette opération, dont on vante les mérites et je ne sais quoi. Il
y a garde rapprochée de Nicolas Maduro,
entre 40 et 80 morts dans cette opération. Pourquoi est-ce que c'est si grave cette opération et cette agression qui a été faite par les États-Unis ? D'abord parce que les États-Unis sont en train de renouer avec un impérialisme qui est extrêmement violent et qui n'a rien à voir ni avec le narcotrafic qui est un prétexte, ni avec la démocratie comme on essaye de nous le faire croire en Europe, mais qui a tout à voir avec le pillage des ressources naturelles du Venezuela et donc du pétrole. D'ailleurs, Trump le dit lui-même directement. Le 19 décembre, il a dit « Nous allons récupérer le pétrole ». Et la deuxième chose, c'est que si on accepte que le droit international est à géométrie et à géographie variable, alors on légitime les coups de force, on légitime ensuite derrière ce qui se passe sur l'Ukraine, ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe en République démocratique du Congo, et ce n'est pas possible. La France ne peut pas participer à cela et doit donc condamner fortement ce qui s'est passé avec les États-Unis.
Vous le dites ce matin, vous aimeriez pouvoir le dire effectivement lors d'un débat à l'Assemblée nationale. Vous irez jeudi à l'Élysée, ils vous convoquent non pas sur cette question-là, mais sur la question de l'Ukraine. Vous répondrez présente à cette rencontre.
Oui, j'y serai, comme à chaque fois que nous parlons des sujets internationaux, nous avons répondu présent, et j'y serai notamment pour rappeler d'abord l'importance du droit international, la honte que nous a fait Emmanuel Macron en ne faisant pas respecter, y compris le multilatéralisme autour de l'ONU, et j'en profiterai évidemment pour demander des réponses sur le Venezuela, mais aussi, je vous le dis Madame de Malherbe, sur le Mercosur, puisque vous le savez, le Mercosur a été décalé, et le Mercosur, c'est donc le traité, le plus grand traité de libre-échange négocié.
On va y revenir, la colère des agriculteurs ne retombe pas.
Exactement, et ils ont bien raison. Et donc, nous ne voulons pas que ce soit décalé peut-être à mi-janvier pour une signature, mais nous voulons que cet accord ne se fasse jamais.
Vous demandez toujours le retour immédiat de Maduro au Venezuela ?
Oui, nous demandons sa libération, et je crois que tous ceux qui ne demandent pas sa libération. Oui, le retour au Venezuela.
Le retour au Venezuela.
Oui, bien sûr, mais sinon, ça veut dire que vous cautionnez un kidnapping.
Vous souhaitez pour les Vénézuéliens qu'ils aient Maduro à la tête de l'État?
Mais ça, ce n'est pas, écoutez, Madame de Malherbe, je suis une responsable politique française. Ce n'est pas à moi de dire qui doit être tel ou tel dirigeant d'un pays. Mais je veux alerter solennellement. Lorsque la France, et elle a eu bien raison, lorsque la France s'est honorée à dire non à la boucherie qui avait été décidée par Bush Junior en 2003 en Irak, lorsque la France a fait cela, et elle a refusé de participer à cette guerre, elle ne l'a pas fait en soutien à Saddam Hussein. Elle l'a fait au nom de principes intangibles du droit international. Et la France doit s'honorer justement à faire respecter ce droit international. Parce que
j'ai parfaitement compris ce volet-là.
Sont les régimes autoritaires dans le monde.
Je voudrais.
Et ensuite, qui peut décider qui doit enlever et kidnapper tel ou tel président en exercice? Je vous assure que là, c'est la loi du plus fort qui supplante le droit international et que le monde est alors en grand danger. Et vous avez d'ailleurs vu que le Groenland est menacé, que le Mexique est menacé, la Colombie est menacée.
Je vous interroge sur la nature du régime de Maduro et sur la répression qu'il a fait de son propre peuple. Est-ce que vous considérez toujours que Maduro est une source d'inspiration?
Alors ça, vous parlez d'un tweet de 2013 de Jean-Luc Mélenchon, mais je vais vous dire. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, en 2013, je vous rappelle que c'était Chavez qui était au pouvoir et que Chavez est le premier qui, dans ce pays, a décidé de socialiser les ressources de pétrole et de faire en sorte que l'argent du pétrole aille au peuple vénézuélien, sortant ainsi.
Est-ce qu'il est vraiment arrivé au peuple vénézuélien, cet argent du pétrole?
Sous Chavez, oui, bien sûr, il y a 5 millions de personnes qui sont sorties du seuil de pauvreté. Mais je vais vous dire,
comment vous expliquez qu'un tiers des Vénézuéliens aient quitté leur pays?
Eh bien, parce que peut-être que depuis 10 ans, il y a une pression incroyable dans ce pays du fait de l'embargo des États-Unis et des sanctions qui sont décidées. Je pense qu'il y a une mise sous pression du régime vénézuélien, oui, qui est due aux sanctions des États-Unis.
Samedi, une mission des Nations Unies, mandatée depuis 2019 par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, a publié un communiqué, je vous le cite, la nécessité de garantir que l'ancien dirigeant vénézuélien rende des comptes sur ses violations, dont des exécutions extrajudiciaires, des disparitions forcées, des tortures, des crimes contre les droits humains et des crimes contre l'humanité commis par son gouvernement.
Oui, mais très bien. Enfin, je ne suis pas en train de défendre.
Non, pas très bien, franchement.
C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je ne suis pas en train de défendre.
Mais c'est peut-être pour ça qu'un tiers des Vénézuéliens ont quitté le pays, non?
Mais est-ce que c'est la question qui est posée aujourd'hui, Madame de Malherbe?
Je vous l'ai d'ailleurs en réalité souvent posée. Je n'ai pas attendu ce qui s'est passé aujourd'hui pour savoir comment vous pouviez continuer à estimer effectivement qu'il n'y avait pas de problème.
Nous estimons le droit international, Madame de Malherbe. Nous n'avons jamais dit qu'il n'y avait pas de problème avec le régime vénézuélien. Nous disons juste qu'à partir du moment où nous laissons la première armée du monde décider qui est légitime d'être à la tête de tel ou tel pays, décider de pouvoir enlever tel ou tel président, alors c'est la loi du les plus forts.
Parfaitement compris cette question-là. Ça, non, j'ai tout à fait compris.
Je vous demande simplement, en fait, si Maduro est un dictateur.
Mais ce n'est pas la question qui est posée.
C'est une
Je vais vous dire pourquoi je n'ai pas envie de répondre à cette question.
En tout cas, j'ai vérifié. Vous n'avez jamais dit. Alors là, pour le coup, oublions la question de Donald Trump. Vous n'avez jamais dit les dernières semaines, les derniers mois, ou même les dernières années, que Maduro était un dictateur.
Mais écoutez, si c'est la question des dictateurs, pourquoi est-ce que les États-Unis n'interviennent pas
Je ne vous demande pas la question de l'intervention. Je vous demande la question de la nature de ce régime.
Je vais vous expliquer pourquoi.
Vraiment nonobstant la question de l'intervention de Donald Trump, est-ce que vous considérez que Maduro n'a jamais été un dictateur?
Madame de Malherbe, je ne répondrai pas à cette question et je vais vous expliquer pourquoi. Nous ne prenons pas comme modèle, et d'ailleurs nous ne prenons aucun modèle extérieur, puisque nous inventons nous-mêmes notre propre manière de fonctionner.
Il y a quand même un modèle, puisque le mot inspiration a été prononcé par Jean-Luc Mélenchon à propos du Venezuela.
Non, ce tweet date de 2013.
Le moment de l'arrivée de Maduro au pouvoir.
Oui, oui, oui. Après le chavisme, ce tweet date de 2013. Donc, nous n'avons pas de modèle extérieur.
C'est Hugo Chavez qui a quand même choisi Maduro, vous le reconnaîtrez, comme son successeur.
Oui, oui.
Donc, il y a une continuité.
Plutôt non. Enfin, ça dépend. Ça dépend comment on voit les choses.
C'est l'un qui a choisi l'autre.
Mais écoutez.
En fait, je suis surprise. Pourquoi vous dites pas les choses comme elles sont?
Parce que
peut-être vous ne considérez pas que c'est un dictateur.
Parce que je ne rentrerai pas dans ce que font les atlantismes BA ici, qui essayent d'expliquer que l'agression qui a été faite au Venezuela serait une question
de
démocratie.
Mais moi, je parle de l'agression.
Moi, je vous parle de ça.
Pourquoi est-ce que je parle de l'agression vis-à-vis de leur peuple? Je vous parle des centaines de morts.
Oui, oui. Non, mais d'accord. Moi, je parle aussi du peuple vénézuélien. Et le peuple vénézuélien a le droit de choisir lui-même son avenir. Ce n'est pas une puissance étrangère qui doit décider pour le peuple vénézuélien. Ce n'est pas une puissance étrangère qui a le droit de venir voler et piller son sous-sol et son pétrole.
Vous me répondez autre chose. Je vous demande de me parler de ce peuple et de ce pays dans lequel Jean-Luc Mélenchon s'est à de nombreuses reprises rendu. Quel bilan en a-t-il tiré? Quel, en rentrant, vous a-t-il dit?
Quand est-ce que Jean-Luc Mélenchon s'est rendu au Venezuela?
Il a jamais été au Venezuela?
Il n'a jamais été au Venezuela.
J'ai pas la date en tête.
Ah bah oui, ça fait très longtemps que Jean-Luc Mélenchon n'a pas été au Venezuela. Je ne sais pas, on le demandera. Mais ça fait très longtemps que Jean-Luc Mélenchon n'est pas été au Venezuela.
Est-ce que vous avez considéré qu'il y avait une rupture à mener avec le Venezuela?
Mais en fait, la question qui est posée n'est pas celle-ci. La question qui est posée est celle du respect du droit international. Si vous commencez à faire ce que vous êtes en train de faire et ce que font tous les atlantistes de ce pays,
c'est-à-dire à déplacer le débat. Mais non, parce qu'encore une fois, cette question, je vous la posais déjà avant, donc ça n'a rien à voir.
Mais si, ça a à voir. Parce que si la question qui est posée, c'est est-ce que c'est une démocratie exemplaire? Vous avez vu le genre de démocrate qu'on a avec Donald Trump?
Vous savez que c'est une démocratie exemplaire. Je vous ai demandé de qualifier ce régime.
Aujourd'hui, oui, mais la question n'est pas la qualification. Je ne veux pas répondre aujourd'hui à cette question parce que la question n'est pas la qualification du régime. Parce que si vous commencez
vous
à mettre le doigt
pas, répondra,
dans la qualification du régime, à ce moment-là, vous justifiez, vous légitimez ce qui est fait comme violation du droit international. Et je le dis, vous savez quelle date nous sommes aujourd'hui, Madame de Malherbe?
Le 6, je crois.
Oui. Et quelle date est-ce? Il y a exactement 5 ans. Qu'est-ce qui se passait aux États-Unis? Il y a exactement 5 ans, jour pour jour.
C'était... J'imagine que c'est le Capitole?
Exactement. C'était la tentative de coup d'État par les partisans de Trump avec l'assaut du Capitole. Donc, ce qui nous explique que ce qui est en train de se passer est lié à la démocratie, mentent et hontément. Tout cela est lié à des intérêts avec les États-Unis qui sont une puissance impérialiste et ce que nous démontre de manière éclatante l'agression qu'a fait les États-Unis et les menaces qu'ils font peser sur les autres pays voisins, c'est que les États-Unis ont leurs propres intérêts et que ces intérêts sont différents de ceux du peuple français et des peuples
et
du monde.
Il est clair qu'effectivement vous ne voulez pas qualifier Nicolas Maduro de dictateur.
Mais vous pouvez Mathilde essayer Pano. De faire un buzz là-dessus.
Je ne fais aucun buzz, je vous pose la question comme je l'ai toujours posée.
Je ne veux pas répondre à cette question.
J'ai compris.
Ce n'est pas ce qui est en jeu. Et je le dis parce qu'il faut être sérieux sur ce qui est en train de se passer. Il faut être sérieux sur le fait que ce qui est en train de faire Donald Trump est en train de mettre en danger le monde entier. Tout à l'heure, vous parliez de l'Ukraine. Jeudi, nous irons voir le Premier ministre.
Emmanuel Macron, jeudi.
Exactement.
Mais pas le Premier ministre, que lui, il organise une réunion sur le budget, mais il ne vous a pas invité.
Bon, c'est très bien parce que nous n'avons rien à négocier avec eux sur cette question. Mais lorsqu'on va parler, par exemple, de l'Ukraine, comment voulez-vous défendre le peuple ukrainien alors que, en disant à Poutine qu'il n'a pas le droit d'envahir son voisin, alors que Trump est en train, lui aussi, de violer le droit international, alors qu'un membre de Conseil de sécurité de l'ONU est en train de violer le droit international. Donc, c'est de ça dont il est question.
C'est bien compris. Le Mercosur, vous dites que ça fera partie des points que vous mettrez sur la table avec Emmanuel Macron jeudi. Du côté de l'Union européenne, on dit par la voix de la porte-parole de la Commission que l'Union européenne est, je cite, sur la bonne route et espère signer bientôt. Du côté de la voix de la France, on affirme que ce ne sera pas fait. Qui vous croyez ?
Je pense que nous avons un président de la République qui, depuis 8 ans, n'a absolument rien fait pour remettre en cause, par exemple, le mandat de négociation et qui, de ce fait, se retrouve dans une situation où on nous explique que il a réussi à repousser d'un mois. En fait, ce n'est pas lui. On sait que c'est l'Italie de Meloni qui a réussi à repousser d'un mois l'échéance sur le Mercosur. Encore une fois, pour que tout le monde comprenne, le Mercosur, c'est le plus gros traité de libre-échange jamais négocié avec les pays du Mercosur. Cela veut dire 99 000 tonnes de viande, de bœuf, qui pourraient rentrer sur notre territoire avec des normes complètement différentes.
Et je précise que l'Italie, d'ailleurs, a dit hier, après, en effet, avoir freiné comme Emmanuel Macron, qu'au fond, si ce traité entrait en vigueur, il ne s'y opposerait pas.
Eh bien, c'est une catastrophe, parce que je rappelle que avant le CETA, qui était le traité de libre-échange avec le Canada, les parlements nationaux devaient s'exprimer sur les traités de libre-échange. Depuis, ils ont fait ce qu'ils appellent du splitting, c'est-à-dire le fait que ça passe uniquement par la Commission européenne de décider s'il y a oui ou non des traités de libre-échange. Nous savons ce que donnerait la réponse du Parlement français. Nous avons fait, lors de notre niche parlementaire, le 27 novembre dernier, une résolution qui a été adoptée, Madame de Malherbe, à l'unanimité de l'Assemblée nationale, pour dire que pour nous, le Mercosur...
C'est donc antidémocratique de passer au-dessus de cette décision.
Mais bien sûr, et Emmanuel Macron doit faire respecter cette voix de la France qui s'est exprimée par la voix de l'Assemblée nationale et ce refus unanime. Et je dois dire que puisqu'il n'y a plus de votes nationaux, Emmanuel Macron aurait dû travailler à une minorité de blocage, c'est-à-dire au moins 4 pays qui représentent un certain pourcentage de la population européenne. Et il n'a pas travaillé à cette minorité de blocage. Donc Emmanuel Macron est responsable devant la colère des agriculteurs aujourd'hui, mais de l'ensemble du peuple de France, parce qu'on parle d'enjeux sanitaires qui sont énormes et qui concernent l'ensemble du peuple de notre pays, et il doit donc faire en sorte de refuser cet accord de libre-échange. Ni arrangement, ni clause miroir, ni je ne sais quoi, il faut le refuser.
Une question très précise, il a dit hier, alors qu'il était avec les représentants des boulangers de France, qu'il serait autorisé à travailler le 1er mai. C'est un changement du code du travail. Est-ce qu'il faut autoriser les patrons des boulangeries à faire travailler leurs salariés le 1er mai? Jusqu'à présent, ils encouraient une amende de 750 euros par salarié.
Écoutez, le 1er mai est une date symbolique et historique dans notre pays. C'est celle qui célèbre les conquêtes des droits des travailleurs qui, lutte après lutte, ont conquéri des droits. Et donc, je ne suis pas d'accord avec le fait que ce jour, qui est un jour férié particulier, puisse ainsi souffrir de dérogations telles que celle-ci. Donc je le dis, il est bon aussi pour les gens de sortir de temps en temps à la fois des activités qu'ils ont avec le travail de manière forcée, de pouvoir faire en sorte de profiter des leurs, de ce qu'ils aiment, de pouvoir profiter du temps où on peut
donc
mettre à
profit la société. Donc sacralisons le 1er mai, y compris les boulangers.
Bien sûr.
Merci Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, d'avoir répondu à mes questions. Il est 8h47 sur RMC BFM TV. Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50. Face à Canteloup.
Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup sur RMC. Mathilde Panot était mon invitée ce matin. Nadine Morano, vous avez suivi avec beaucoup d'attention cette interview.
Mathilde Panot, mais moi je l'adore parce que c'est une femme de conviction. T'as vu ce matin, tu l'as éprouvé, hein, quand t'es allée chercher sur Maduro, Apolline. Hein, t'as vu, tu la sens, elle te répond, elle est convaincue. Oui. Hein, toujours, tu vois la tête en avant, comme si elle te crachait la gueule ou te pète un coup de boule. Hein. Ouais, tu l'as senti. Non mais tu sais quoi, la gamine, elle me fait penser à moi quand j'étais jeune. Oui. Ouais, tu sais, moi et Mathilde, on est sortis de la même moule. C'est on est les mêmes.
Alors je crois que l'expression c'est du même moule.
Ouais, oh, ça va, du même moule, ça va, c'est bon, ça va. Madame, la madame, je parle mieux français que tout le monde, c'est bon.
Un mot sur le Venezuela.
Oh là là, la peur que j'ai eue quand j'ai entendu à la radio qu'on avait enlevé un président qui s'appelle Nicolas en survêtement pour être jugé. J'ai cru que ces salauds justes étaient encore pris à mon Nico, hein, pendant qu'il faisait son jogging. Alors tout de suite, bien sûr, tout de suite, ben, tu me connais, hein, j'ai appelé Louis.
Louis Sarkozy, Louis son fils.
Non, mais t'en connais d'autres, toi, des Louis? Bon, bref, j'appelle l'héritier de la couronne pour organiser, voilà, vite fait, une manif de soutien à son père. Et là, il me dit, le Louis, il me dit, t'inquiète pas, madadine, c'est pas papa, c'est juste un gaucho basané à moustache, président d'un pays de crève-la-faim chez les latinos. On s'en branle.
Ah, vous êtes rassuré, alors.
Qu'est-ce qu'il y a? Fais pas cette tête. Quand je dis ça, c'est pas raciste. Je suis... Non, je suis pas raciste. La preuve, j'ai une femme de ménage portugaise.
Voilà, merci. Ah non. Allez, on passe au titre de l'actualité. Stéphane Bern est avec nous.
Oui. Oh, j'ai envie de vous dire bonne année à tous et à vous, Apolline. Vous avez bravé le climat, les routes enneigées. Vous êtes notre reine des neiges de la matinale. Parce que non seulement il a neigé, mais en plus, Mathilde Panot a été glaciale avec vous. Oh, mais justement, allez, on est dans le thème. Guerre froide, même guerre très froide. C'est parti pour ce titre. Après les dernières menaces de Donald Trump sur le Groenland, la France est dite solidaire. Oh, je ris. Solidaire, tu parles. On a à peine 3 flocons de neige sur notre pays qui tombent et c'est l'affolement général et le pays est paralysé. Je vous le dis, les Esquimaux, les Inuits, compterez pas trop sur nous. Hein. Et puis, l'actualité, bien sûr. Oh, qu'est-ce que c'est triste. Oh, je suis ému. C'est les obsèques de Brigitte Bardot, demain au cimetière marin de Saint-Tropez. Pour ceux qui veulent suivre le convoi, petite astuce RMC ce matin pour nos auditeurs. Le corbillard qui transportera Brigitte Bardot sera équipé d'un autocollant sur la lunette arrière indiquant bébé à bord.
Oui,
on a un petit peu à retard.
Merci beaucoup Stéphane. Stéphane Bern. La situation au Venezuela continue de préoccuper le monde. Le pays n'a pas de leader. Il est en ruine. Bruno Le Maire est avec nous. Bonjour.
Bonjour Madame de Malherbe. Ça vous fait rire?
Non.
Le pays est en ruine, c'est ça? Le pays, le Venezuela est en ruine, donc on invite le spécialiste de la ruine en France. Hein, c'est ça? Vous trouvez ça drôle, vous? Eh bien, je vais vous dire une chose, j'assume, Madame de Malherbe. Parce que grâce à moi, la France est à l'abri, voilà.
C'est-à-dire?
Je vous explique. Quand Trump s'intéresse aujourd'hui au Venezuela, demain au Groenland, à la Colombie, à Cuba, c'est pour se faire du pognon, nous sommes tous d'accord. Oui, on n'est pas innocents, mais en France, du pognon, il n'y en a plus.
Ah.
Et ça m'a pris 7 ans. 7 ans de travail acharné. Mais grâce à moi, les caisses aujourd'hui sont vides, archivides en France. Trump, je vous le dis, ne nous attaquera pas. Et surtout, ne me dites pas de merci.
Eh bien, merci alors. Merci Bruno Le Maire. Après Nicolas Maduro, Donald Trump a également menacé le président colombien, jugé trop à gauche. François Hollande, vous vouliez réagir?
Oui. Antoine, qu'ancien président de la République, Recep, a le rappelé. Et en tant que futur président de gauche en 2027, j'aime prévenir. L'homme de gauche que je suis se sent évidemment menacé, car j'ai pris de nombreuses, souvenez-vous, mesures de gauche lors de mon quinquennat. J'ai fait voter, bien sûr, vous vous en souvenez tous, le mariage pour tous.
Bien sûr.
Mais Qu'est-ce que j'ai fait d'autre de gauche? Il me semble que j'ai fait un autre truc de gauche. Le mariage pour tous, pour Trump. Pour Trump, le mariage pour tous, c'est déjà largement suffisant pour qu'il m'envoie son armée siphonner tout le pétrole qu'il y a déjà dans le réservoir de mon scooter.
Ah ouais,
et je n'ai aucune envie de me retrouver menotté en claquette chaussette à la vue des caméras du monde entier dans mon pyjama droupi.
Ah oui.
Vous avez l'image, vous n'avez pas de pyjama.
Non, je n'ai pas de pyjama groupie.
On n'a jamais fait un pyjama groupie.
Parce que maintenant j'ai l'image.
Pour le Saint-Valentin, on devrait. Ça me fait une idée de cadeau pour vous. Voilà.
Je vais y réfléchir.
En plus, vous avez vu hier, il a dit, revenons quand même de façon sérieuse au sujet qui nous occupe, même si de son temps nous digressons. Et j'aime bien digresser. Il a dit, Trump, qu'il allait venir pour moi.
Ah bon? Ça, j'ai pas entendu. Je crois qu'il a surtout parlé du Groenland, non?
Ah, le Groenland! D'accord! Ah oui, d'accord, j'avais mal compris. Non, parce que j'ai entendu dire We are going to fuck the Groenland. Et j'ai cru, oui, c'est confusant, oui! Il n'y a pas qu'il parle de moi, non. Non, c'est pour ça, d'ailleurs, je vais te dire tout de suite, il faut que j'envisage de m'exfiltrer à Tulle. Je me suis dit, il faut que je parte à Tulle, parce que Tulle, c'est une super planque.
Ah oui,
qui a envie aujourd'hui d'envahir la Corrèze? Hein, personne.
Non, personne.
Qu'est-ce qu'il en ferait, Trump, de la Corrèze. Il y a rien là-bas. Il pleut et on s'emmerde. Je le sais, je suis député là-bas. Mais je reste sur mes gardes parce vous savez que l'autre andouille de Le Cornu veut supprimer nos gardes du corps d'ancien président. Je suis en danger. Je suis une espèce menacée. Et en plus, il n'y a plus. Il faut bien le dire, Brigitte Bardot pour Besson.
Ah bah c'est sûr. Merci en tout cas, François Hollande. Et enfin, Alain Marchal nous rejoint pour nous présenter le sommaire des grandes gueules. Quel est le programme, Alain ?
Bonjour Apolline, aujourd'hui dans les grandes gueules, nous reviendrons bien sûr sur l'opération américaine au Venezuela avec Jean-François qui est chauffagiste et qui a justement fêté le réveillon dans un restaurant mexicain Los Patatos Fritos situé sur la Roca de Mulhouse. Quelles conséquences justement sur les prix du pétrole? Nous en parlerons avec Jean-Yves, propriétaire d'une Renault Mégane et qui fait régulièrement justement le plein dans une station service du côté de Saint-Nazaire. Et puis enfin, nous reviendrons également sur notre pays bloqué par ces chutes de neige abondantes avec Catherine Tabard, qui connaît bien le sujet puisqu'elle est aide-soignante à Montpellier et qu'elle collectionne justement les boules à neige. Voilà, les meilleurs experts sont dans le GG. À tout de suite.
Merci Nicolas. À 50 loups, tous les jours à 8h50 sur RMC et à tout moment en podcast. Dans un instant, les GG, il est vrai. Quel est le programme, Alain?
Eh bien, dans les grandes gueules, nous serons avec l'agriculteur Didier Giraud et on s'intéressera de nouveau, on s'intéressera de nouveau à la colère agricole, à ces tracteurs qui montent sur Paris. Allez, restez avec les GG, on reparlera du froid aussi et des élèves qui caillent dans leur classe. À tout de suite.